Alors, ce soir, c'est la deuxième partie de ce mandat qu'on m'avait confié de vous parler, donc, de cette grande vérité, de cette réponse du Seigneur à cette question qui lui avait été posée, à savoir quel est le premier ou le plus grand commandement. Et nous avions déjà exploré la dernière fois, au mois d'août, si je ne fais pas erreur, cette première partie de la réponse du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et dans cette même réponse, nous avions aussi un second volet qui est celui que nous allons explorer ce soir ensemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Marc au chapitre 12. 1 de mes mentors au Québec, qui est maintenant décédé, M. Bernet, il me disait souvent... Il dit, quand tu te présentes sur la tribune ou à la tribune pour enseigner ou prêcher la parole de Dieu, il dit, tu peux faire une courte introduction, mais ne sois pas trop long. Lis le texte biblique. Lis le texte biblique, prie et ensuite prêche. Parce que c'est le texte biblique qui fait toute l'autorité. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous allons lire Marc 12, à partir du verset 28 jusqu'au verset 34. Et l'un des scribes qui les avait ouï discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus lui répondit, « Le premier de tous les commandements est, « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-ci. » Et le scribe lui dit, « Bien maître, tu as dit selon la vérité qu'il y en a un et il n'y en a point d'autre que lui. » Et que de l'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence et de toute son âme et de toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Nous allons prier. Père Céleste, merci pour ce passage, merci pour cette révélation que le Fils nous donne ici. Nous prions que tu parles à nos cœurs, que tu affermisses notre foi, que tu nous fasses grandir dans la maturité en tant que chrétiens et que tu nous aides, Seigneur, à appliquer dans nos vies de tous les jours, dans la semaine, ce passage important qui nous encourage, nous exhorte, pour ne pas dire nous commande, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Merci Seigneur et bénis ta parole dans chacun de nos cœurs pour la gloire de ton nom. Amen. Je rappelle le contexte. Ce passage-là fait partie d'une série de controverses religieuses, si l'on veut, entre le Seigneur Jésus-Christ et puis les chefs religieux juifs de l'époque, ceux de Jérusalem particulièrement. Et c'est un événement qui se produit vers la fin de la troisième année du ministère public du Seigneur Jésus, à peine quelques temps avant la semaine de la Passion. Déjà, la première fois, nous avions vu que nous pouvions diviser ainsi ce passage, une introduction du narrateur qui est présenté ici, Marc, et ensuite nous avons la question d'un scribe, la réponse de Jésus, le commentaire du scribe et le commentaire suivi du Seigneur Jésus, et ensuite la conclusion du narrateur. Et ce soir, nous allons nous pencher sur le deuxième volet de cette question qui a été posée au Seigneur et de la réponse, évidemment, qui s'en est suivie. Et nous allons nous pencher plutôt là-dessus. C'est assez intéressant de noter que le Seigneur Jésus, lorsqu'il répond à la question « Quel est le plus grand commandement? » littéralement le premier commandement, eh bien, il offre une réponse à deux volets. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu d'une part et ton prochain comme toi-même. » Et il y a un élément commun dans cette réponse, c'est le verbe « aimer ».« Tu aimeras d'une part le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ensuite, chacun de ces volets comporte ses propres caractéristiques, comme on peut le voir un peu dans ce graphique. Donc, tu aimeras, c'est l'élément commun dans la réponse à deux volets du Seigneur. Le premier volet, c'est le Seigneur ton Dieu, et qui est modifié par de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc, voilà comment on doit aimer le Seigneur Dieu. Et ensuite, on doit aussi aimer le prochain comme soi-même. On va regarder un petit peu plus en détail cette réponse et se poser quelques questions par rapport à la signification et à l'importance que prend cette réponse du Seigneur Jésus. Dans la version Darby que nous avons lue, Darby a suivi quelques manuscrits grecs seulement. Parfois, il a fait ça. Il a pris des décisions sur des variantes textuelles particulières et il a ajouté les mots « qui lui est semblable » au deuxième commandement. Donc, voici le second commandement, « qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ces mots-là, « qui lui est semblable », apparaissent seulement dans quelques manuscrits. Tous les plus anciens manuscrits grecs du Nouveau Testament ne comportent pas nécessairement cette réponse. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas original. Ça ne veut pas dire ça, parce qu'il y en a trop qui concluent ça souvent. Mais ça veut simplement dire que dans l'ensemble des manuscrits que nous avons maintenant, ben, cette phrase, il est vrai qu'elle apparaît pas dans les plus anciens, elle est quand même là, et ça nous confirme quelque chose, c'est que à un moment donné ou un autre, dans l'histoire de la transmission des textes, des manuscrits, cette phrase a trouvé sa place. Est-ce qu'elle est vraiment originale? Je crois qu'on n'a pas besoin de se poser cette question-là. Elle est dans les manuscrits, elle fait partie de la tradition de transcription des manuscrits, donc je l'accepte comme étant la parole de Dieu, c'est tout. Mais si je ne trouve pas ce bout de phrase dans d'autres versions, comme la seconde, ce n'est pas tellement un grand problème, parce que ça ne touche pas réellement une doctrine fondamentale. Ça apporte quand même un aspect intéressant, et on va l'explorer un tout petit peu plus tard, concernant cet élément-là de « voici le second qui lui est semblable ». Maintenant, il y a cet élément de similarité qui se trouve dans les deux commandements, c'est dans la qualité particulière de l'amour dont il est question. En grec, on vous l'a certainement déjà mentionné, il y a plusieurs mots grecs pour le verbe « aimer » et deux principaux, « agapao » et « phileo ». Et ce soir, je pense qu'on va faire un petit peu la lumière sur l'emploi dans le Nouveau Testament de ces deux verbes-là, parce qu'il n'est pas rare que des prédicateurs ou des commentateurs utilisent ce terme-là de façon inexacte. Et j'aimerais vous proposer des choses. Vous allez voir ce soir avec les Écritures ce qu'on peut déterminer par rapport au sens du terme « tu aimeras ». C'est « agapao » qui est là, et il est super important, ce verbe-là. Mais il faut le définir correctement. Alors, vous voyez que « tu aimeras le Seigneur ton Dieu » et « tu aimeras ton prochain », c'est le même verbe. Exactement le même verbe. Il y a une qualité dans l'amour qui est identique envers Dieu comme envers le prochain. Peut-être qu'on se serait attendu à avoir une qualité de l'amour qui est un peu moindre envers le prochain, puisque, après tout, on doit aimer Dieu plus que n'importe quoi d'autre. Mais ce n'est pas du tout la pensée biblique, ni la pensée du Seigneur. Ce que lui nous dit, c'est qu'on doit aimer Dieu de la même manière qu'on aime le prochain, et vice-versa. Et c'est cet élément de similarité entre les deux commandements que nous trouvons dans la qualité particulière de l'amour. Nous allons développer plus en détail tout à l'heure le mot « amour » ici, « agapao ». Mais j'aimerais qu'on regarde déjà un passage de la première épître de Jean qui nous explique pourquoi c'est le même verbe, autant pour Dieu que pour le prochain. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Jean chapitre 4. Lisons les versets 20 et 21. 1 Jean 4, 20 et 21. « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, il est menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons ce commandement de sa part que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Aimer Dieu et aimer son frère ou aimer son prochain, c'est une seule chose dans la pensée du Seigneur. C'est pourquoi la réponse à « quel est le plus grand commandement? » Elle comporte deux volets, c'est vrai, mais deux volets qui vont bien ensemble. Et j'aime les mots de Darby, qui lui est semblable. On pourrait dire qui lui est similaire, qui est identique en réalité. Donc, C'est pour cela qu'il y a cet élément de similarité entre les deux, c'est que la qualité de l'amour doit être exactement la même, que ce soit envers Dieu ou envers le prochain. Je ne peux pas m'imaginer, selon la pensée biblique, prétendre aimer Dieu à ce niveau et aimer les hommes ou les prochains ou le prochain à ce niveau en disant, ben écoute, Dieu, il mérite le meilleur amour et envers les hommes, c'est pas grave si l'amour est un peu moindre. Il y a une certaine logique là-dedans, mais ce n'est pas biblique. Et retenez bien ça, ce qui est logique n'est pas toujours biblique. Alors, le point de la réponse du Seigneur, il n'a pas changé de verbe, il a gardé la même force d'agapao pour les deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même avec le même amour, la même qualité d'amour. Bien sûr, on parle d'aimer, on ne parle pas d'adoration ici, on parle d'aimer. Alors, Jean a compris le message et dans sa première épître, il nous dit, si on dit qu'on aime Dieu, on doit aimer aussi le prochain. Et particulièrement son frère. Et ça, je vais insister tout à l'heure là-dessus. Dans ce qui va suivre, nous allons essayer de répondre à 5 questions. Qui est mon prochain? Ça a l'air un peu curieux comme question, mais ça vaut la peine de la poser. Deuxièmement, que signifie « comme toi-même »? Qu'est-ce que ça implique exactement? Troisièmement, que signifie le fait qu'il n'y a pas d'autre commandement plus grand? Qu'est-ce que cela implique d'un point de vue théologique et pratique? Quatrièmement, que signifie le fait qu'aimer son prochain est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices? Pensons-y, aimer, c'est plus que les holocaustes et les sacrifices. Qu'est-ce que ça implique? Et cinquièmement, que signifie réellement le verbe aimer? C'est ce que nous allons voir, Dieu voulant, dans les prochaines minutes. Donc, qui est mon prochain? Vous savez, lorsque les rabbins juifs enseignaient le peuple d'Israël à aimer leur prochain, ils ajoutaient aussi qu'il fallait haïr les ennemis. C'était dans l'enseignement rabbinique. Matthieu 5, 43 fait allusion à cela. Sans y tourner, je ne fais seulement que donner la référence. Donc, c'était l'enseignement rabbinique. Peut-être qu'ils fondaient cet enseignement-là sur quelques extraits des psaumes, dont le psaume 139, versets 21 et 22, je lis, « N'ai-je pas en haine, ô Éternel, ceux qui te haïssent, et n'ai-je pas en horreur ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. » Peut-être que les rabbins se fondaient sur ce texte-là pour enseigner à Israël que oui, tu dois aimer ton prochain, mais tu dois haïr ton ennemi. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur Jésus-Christ avait un tout autre enseignement, tout autre. Aimez vos ennemis. Matthieu 5, 43. Ce qui se traduit par « dites-leur du bien » ou « faites-leur du bien ». Bénissez vos ennemis. Bénir, eulogéo en grec signifie « dire du bien », littéralement. Et il comporte l'idée de dire du bien et de faire du bien. Et priez pour vos ennemis. Quel enseignement radical de la part du Seigneur Jésus à l'époque, évidemment. Alors, ce passage signifie clairement que dans la pensée du Seigneur, il faut même aimer les ennemis du peuple de Dieu. Il faut les aimer. Il y a des chrétiens dans le monde occidental qui aiment les Juifs et qui haïssent les Arabes, les Palestiniens. Jamais la parole de Dieu nous dit d'avoir une telle attitude. On doit aimer les hommes de toutes les nations, parce que nous sommes croyants de l'Église. Il faut prêcher l'Évangile autant aux Juifs qu'aux Palestiniens. On ne doit pas être des pro-Juifs et des anti-Palestiniens. On doit être des pro-humanité et témoigner à n'importe quel homme de n'importe quelle nation et de l'aimer, quel qu'il soit, de n'importe quelle nation. Ça, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est super important de comprendre ça. Un jour, il y a un docteur de la loi qui s'est approché donc du Seigneur Jésus et qui a entretenu avec lui une conversation très intéressante sur le sujet qui nous préoccupe maintenant. Il est même allé jusqu'à demander au Seigneur « Qui est mon prochain? » Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est dans les Évangiles. Tournez avec moi dans Luc 10. Ce docteur de la loi a demandé au Seigneur « Qui est mon prochain? » Nous allons lire un texte plus ou moins long, Luc 10, versets 25 à 37. Et voici, un docteur de la loi se leva pour l'éprouver. Remarquez que ce n'était pas une question sincère, parce qu'il cherchait une réponse. Il voulait piéger le Seigneur. Et il dit, « Maître, que faut-il que j'aie fait pour hériter la vie éternelle? » Et il lui dit, « Qu'a-t-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? » Et répondant, il dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et il lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Et Jésus répondant, dit, « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains des voleurs qui aussi, l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, par aventure, un sacrificateur descendait par ce chemin-là, et le voyant passa outre de l'autre côté, et pareillement aussi un lévite, étant arrivé en cet endroit-là, s'en vint, et le voyant passa outre de l'autre côté. Mais un Samaritain, allant son chemin, vint à lui, et le voyant fut ému de compassion, et s'approcha et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, et l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena dans l'hôtellerie, et eut soin de lui. » Et le lendemain, s'en alla, il tira deux deniers, les donna à l'hôtelier, lui dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, moi, à mon retour, je te le rendrai. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs? » Et il dit, « C'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Avez-vous remarqué quelque chose de très intéressant? C'est que la réponse de ce docteur de la loi est identique à celle que le Seigneur Jésus lui-même allait donner plus tard à un autre docteur de la loi, celle que nous sommes en train d'étudier dans Marc 12. En fait, cet événement-là se produit, celui-ci, là, dans Luc, environ 6 mois avant que Jésus ne soit questionné sur le plus grand commandement. Mais là, c'est l'inverse. C'est le docteur de la loi qui donne lui-même la réponse maintenant. C'est intéressant, ça. C'est vraiment intéressant. On a cette rencontre-là entre les deux, puis on voit que c'était vraiment répandu en Israël, cette notion que le plus grand commandement, c'était vraiment d'aimer Dieu et son prochain, et ça incluait réellement son prochain. Maintenant, la réponse du Seigneur Jésus semble impliquer que celui qui aime vraiment Dieu et aussi qui aime son prochain a déjà la vie éternelle. C'est la marque de quelqu'un qui est sauvé. Celui qui aime Dieu et qui aime son prochain, c'est parce qu'il a déjà la vie éternelle. Et c'est certainement la marque d'un véritable croyant que d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, ça, il n'y a aucun doute. Mais le docteur de la loi cherche encore à se justifier lui-même, apparemment sur la base de sa propre définition de l'amour envers Dieu et le prochain. Et c'est pourquoi il demande au Seigneur, « Qui est mon prochain? » La réponse du Seigneur n'avait pas fait son affaire. De toute façon, ça, c'était clair. Et c'est là que le Seigneur répond par cette parabole très bien connue du bon Samaritain. L'introduction de cette parabole-là laisse penser qu'il s'agit peut-être d'une histoire vraie. C'est intéressant, en Israël, entre Jérusalem et Jéricho, c'est une route qui descend. Hein, comme on le voit d'ailleurs dans les évangiles, il y a une auberge, enfin, il y a une structure qui est préservée et qui est mentionnée comme étant l'auberge du bon Samaritain, carrément entre les deux. Ça, j'avais pris cette photo-là alors que j'allais visiter ce site historique. Et je relisais cette histoire, j'essayais de la comprendre dans son contexte. Et il y a quelque chose qui m'a frappé. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais je vais vous poser une question et je ne veux pas que personne regarde dans sa Bible. Vous me regardez dans les yeux, ça va? Dans la parabole du bon Samaritain, qui est le prochain? Osez répondre. Qui est le prochain? C'est le Samaritain? C'est le blessé? OK. Qui vote pour le blessé? Levez la main. Tous ceux qui votent pour le blessé. Ils n'osent pas la lever. Là, je vous comprends. Moi, ce genre de truc-là, je ne réponds pas, je ne fais rien. La réponse, c'est le Samaritain. C'est vraiment le Samaritain. C'est parce qu'on a l'impression que, en réalité, celui à qui on fait du bien, c'est notre prochain. Mais dans l'histoire, le prochain, c'est le Samaritain qui fait du bien à celui qui est blessé. Et le docteur de la loi était capable de comprendre parce qu'il n'ose pas dire le Samaritain. Écoutez, c'est horrible dans un sens, d'un point de vue culturel et social, c'est assez horrible ce que le Seigneur Jésus présente comme histoire aux oreilles du docteur de la loi. C'est horrible à ses oreilles. Parce qu'il entend parler de leaders religieux, comme il en est un lui-même, qui n'ont rien fait devant cet homme blessé, dont on ne sait rien concernant son identité ou sa nationalité, peu importe, c'est n'importe qui. Mais les deux premiers qui ont passé outre en ignorant, c'était des leaders juifs. Mais le troisième qui va prendre la peine de s'occuper du blessé, c'est un Samaritain. Il n'y a pas de relation entre juifs et Samaritains. Ils haïssent les Samaritains, les Juifs. Ils n'ont tellement pas de relation qu'apparemment, quand ils devaient se rendre en Galilée, ils contournaient par la partie de l'autre côté, la Pérée, ainsi de suite, de l'autre côté du Jourdain. Ils faisaient un détour. Je fais une parenthèse ici. Quand Jésus lui est allé en Galilée, il a dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie parce qu'il devait les rencontrer, leur prêcher l'Évangile. Mais normalement, les Juifs contournaient carrément pour ne pas passer là. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs. On ne passe pas par la Cisjordanie, la Samarie qui est occupée. On fait plutôt le tour par la route 90 le long du Jourdain. Alors, dans cette situation-là, le prochain était carrément quelqu'un qui était en pleine inimitié contre le docteur de la loi lui-même qui est en train de poser la question. C'est quelqu'un qui l'haïssait. Alors, en l'identifiant comme étant le prochain, le Seigneur Jésus-Christ a démontré à ce docteur de la loi que le prochain, c'est toute personne qui est sur notre chemin, toute personne que nous rencontrons, peu importe son groupe ethnique, peu importe que cette personne-là soit socialement ennemie. L'exemple, il est radical. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même, même si c'est un Samaritain. C'est dur à comprendre. La portée et l'exigence de ce commandement-là quand on n'est pas dans la culture juive et qu'on n'a pas connu cette relation d'inimitié entre juifs et samaritains. Que c'est extraordinaire ce que le Seigneur Jésus fait ici. Vous savez, dans plusieurs passages de l'Écriture, le prochain, c'est n'importe qui. Mais j'ai remarqué quelque chose et ça m'a frappé. Le prochain dans l'Écriture, c'est particulièrement nos frères et sœurs dans la foi. Et cela, ça m'a vraiment impressionné quand je recherchais le concept de prochain, comment il était développé dans l'Écriture. Ça m'a frappé vraiment de façon forte. Il y a un texte que je vais vous lire, dans Galates 6, verset 10, qui résume très bien cette idée que l'on doit aimer notre prochain, quel qu'il soit, mais particulièrement les enfants de Dieu. Ainsi donc, nous dit Paul, comme nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi. Extraordinaire quand même, hein? Il y a une insistance dans la parole de Dieu à ce que nous aimions notre prochain, c'est vrai, particulièrement nos frères et sœurs. Et je pense que la raison, elle est dans le cantique que nous avons chanté tout à l'heure. Parce que c'est à cela que le monde va reconnaître que nous sommes des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alors, voyez comment c'est important d'aimer notre prochain, mais encore plus d'aimer nos frères et sœurs. S'il y a des querelles entre les frères et sœurs, nous ruinons le témoignage au Seigneur Jésus-Christ. Et malheureusement, ça a été trop souvent le cas. Alors, on a besoin de réapprendre à aimer les frères et sœurs, même s'ils sont comme du poil à gratter, parfois, ou du papier poncé, 80 grains. Deuxième question. Si vous avez besoin d'explications pour mes métaphores québécoises, vous viendrez me voir après. Je vous les expliquerai. Que signifie « comme toi-même » Je trouve ça un peu curieux, en fait, comme expression, parce que, en considérant le fait qu'on vit dans un monde tellement égocentrique, ça fait bizarre de dire « aime ton prochain comme toi-même ». Quand on y pense, quand on réfléchit de cette manière-là, mais dans les faits, cette parole-là a simplement pour but de nous faire prendre conscience qu'il faut accorder aux autres les mêmes soins que l'on est prêt à s'accorder à soi-même de façon générale. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont très peu soigneux d'eux-mêmes, qui prennent soin d'eux-mêmes de façon vraiment négligente. Mais le point, c'est la norme. De façon normative, de façon générale, les gens prennent soin d'eux. Les gens se regardent dans le miroir et ils s'assurent qu'ils paraissent bien, qu'ils ont bien pris soin d'eux. C'est un peu ce que je veux refléter avec cette image-là. Donc, ça signifie aimer le prochain comme soi-même, qu'il faut traiter les autres selon les mêmes attentes et les mêmes normes que nous avons pour nous-mêmes. C'est ça la vérité dans ce point-là. En fait, comme on se voit soi-même. Alors, fondamentalement et de façon normative, toute personne cherche toujours ce qui a le mieux pour elle. C'est rare qu'on cherche ce qui nous plaira pas ou ce qui va nous faire du tort. On va chercher généralement ce qui est mieux pour nous. Alors, la parole nous dit, faites même pour les autres. C'est la règle d'or, en réalité. Voilà ce qu'on doit faire envers les autres. Troisième question. Que signifie le fait qu'il n'y a pas d'autre commandement plus grand? Qu'est-ce que cela implique? Le Seigneur Jésus, il a fourni lui-même l'explication, mais elle nous est rapportée seulement dans l'Évangile selon Matthieu. C'est pour ça que quand on étudie un texte des Évangiles, il faut toujours considérer les autres Évangiles en parallèle pour bien interpréter. Dans Matthieu 22, verset 40, le Seigneur Jésus ajoute ceci. Donc, de ces deux commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes. Ça revient à dire que l'obéissance à ces deux seuls commandements, c'est comme obéir à tous les autres commandements. C'est certain que si on obéit au commandement d'aimer Dieu de tout son cœur et ainsi de suite, et son prochain comme soi-même, tous les autres commandements, on les fait. Parce qu'ils sont dépendants de cette vérité profonde-là, de ces deux commandements-là. Et ça, c'est ce qu'affirme tous les auteurs du Nouveau Testament. Je vais vous lire quelques textes. Romains 13, versets 8 à 10, nous dit ceci. « Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Car ce qui est dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement qu'il puisse y avoir est résumé dans cette parole-ci. » Tous les commandements sont résumés dans cette parole-ci. Quelle parole? C'est Paul qui parle aux Romains. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est accomplir toute la parole de Dieu. Et c'est ce que Paul nous dit. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour, c'est la somme de la loi. C'est le total de la loi. Dans Galates 5, verset 14, il nous dit ceci. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Wow! Et dans Jacques 2, 8, c'est le texte que je voulais afficher, qui est là. « Si en effet vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, voilà la loi royale, vous faites bien. » Pourquoi ce commandement est royal? Probablement parce qu'il a été donné par le roi des rois, mais aussi parce que ce commandement est le roi des commandements. Il est le roi par excellence de tous les commandements. Il est à la tête de tous les commandements. Voilà ce que ça signifie, le fait qu'il n'y a pas d'autre commandement plus grand. Tous les commandements se résument dans celui-là, ce seul commandement-là. Quatrième question. Que signifie le fait qu'aimer son prochain est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices et qu'est-ce que cela implique? Cette parole-là, premièrement, elle repose sur plusieurs passages de l'Ancien Testament, dont le premier est probablement 1 Samuel 15, verset 22. Je vous le lis. Et Samuel dit, « L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce qu'on écoute la voix de l'Éternel? Voici, écouter est meilleur que les sacrifices et prêter l'oreille est meilleur que la graisse des béliers. » Ça, c'est ce que Samuel dit dans sa discussion avec Saül. Écouter, obéir et dans ce cas-ci aimer, c'est plus que tous les holocaustes. Quels holocaustes? Ceux de la loi mosaïque? Bien sûr. Quels sacrifices? Ceux du Lévitique? Bien sûr. Et pourtant, le principe d'offrir des holocaustes et des sacrifices vient de Dieu, particulièrement à travers la loi mosaïque et le service du Lévitique. Dieu y prend certainement plaisir, il n'y a aucun doute. Dieu prend plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, ça vient de lui, mais seulement lorsqu'ils sont accompagnés de la bonne attitude. C'est exactement ce que Samuel essayait de faire comprendre à Saül. Saül se targue d'avoir offert les sacrifices. Alors pourquoi tu me reprocherais quoi que ce soit? Regarde la quantité des sacrifices. Et Samuel lui avait dit, tu n'offres pas de sacrifices. Premièrement, tu n'es pas sacrificateur, tu es roi. C'est moi le sacrificateur. Et je viendrai offrir des sacrifices. Attends que j'arrive. Il n'a pas attendu. Et il a désobéi. Et il a offert des sacrifices. Et il a été repris. Et il a perdu la royauté. Pourquoi? Parce que offrir des sacrifices, c'était bien, mais il faut le faire avec la bonne attitude. Dans le cas de Saül, c'était avec obéissance. Et ce que le Seigneur Jésus implique ici, c'est pas que les holocaustes et les sacrifices n'ont qu'une valeur. Surtout qu'au moment où il dit ça, à son époque, ils sont toujours en valeur. Ils sont toujours en... Comment je cherche mon mot, là? En vigueur. Merci beaucoup. Sont toujours en vigueur. Donc, la loi mosaïque existe toujours. Donc, le Seigneur n'est pas en train de dire, « Ah, laissez tout tomber ça, c'est pas important. » Ce n'est pas ça qu'il veut dire. C'est important, mais avec la bonne attitude. Il y a un autre passage qui nous éclaire sur le sens de cette phrase. Il est dans Michée 6, versets 6 à 8. Vous connaissez très bien le texte, je le lis. « Avec quoi m'approcherai-je de l'Éternel? M'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut? M'approcherai-je de lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an? L'Éternel prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, à des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour ma transgression, le fruit de mon ventre pour le péché de mon âme? Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. » Et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part, sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu? Vous voyez ici, c'est la droiture, la justice, la bonté et l'humilité qui doivent caractériser l'adorateur qui offre les sacrifices. Et ces qualités-là sont le fondement même de l'amour envers Dieu et envers le prochain. Offrez des sacrifices? Oui, c'est vrai. Offrez-les avec la bonne attitude. On va lire un passage qui présente un contexte très similaire à celui à l'étude. Venez avec moi dans Matthieu chapitre 23. Matthieu 23, verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe et de l'aneth et du cumin, et vous avez laissé les choses plus importantes de la loi. » Notez ça, il y a des choses plus importantes que d'autres, même dans la loi. « Le jugement et la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas laisser celles-là. » La dernière phrase du Seigneur Jésus ici, elle fournit en quelque sorte une explication sur la relation qui existe entre l'amour du prochain et les prescriptions de la loi. Il faut faire les prescriptions de la loi. Il faut vraiment payer la dîme du cumin, ce que représente là cette image. Il faut faire ça, mais il faut aussi le faire sans négliger le second, comme le dit la version seconde d'ailleurs. Donc, d'aimer le prochain, c'est super important. Aimer le prochain à travers la pratique du jugement, de la miséricorde, de la fidélité. Le jugement, c'est le discernement, entre autres des choses, les meilleures. Donc, on doit continuer à offrir des sacrifices, comme on le voit là, ou offrir les prescriptions de la loi mosaïque, pratique le jugement, cependant, la miséricorde et la fidélité. Puis ensuite, oui, vas-y, paye la dîme du cumin. Alors, le Seigneur Jésus, il est en train de nous faire réaliser ce qui est vraiment important et ce qui ne doit pas être négligé. C'était ça qu'il enseignait. C'est comme s'il nous disait, je vais faire une application très rapide à ça, une parenthèse. C'est comme s'il entrait ici et il nous disait, c'est bien ce que vous faites de vous réunir le dimanche matin et le dimanche soir. J'apprécie votre déroulement de réunion de 9h30 à, je ne sais pas, 11h à peu près. Oui, j'apprécie votre réunion de prière la semaine. Mais ce que j'apprécie moins, c'est l'amertume qu'il y a dans le cœur. Et imaginez, là, il pointe toi contre toi. Et vous deux, vous vous êtes parlé dans le dos l'un l'autre, et toi, tu as commérée contre lui, et toi, vous voyez le point? Alors, c'est comme si le Seigneur Jésus, en sachant cela, il nous disait, et croyez-moi, c'est une réalité, ça. C'est comme s'il nous disait, réglez vos problèmes et ensuite, venez au culte. Alors, c'est important le culte, mais c'est plus important que vous réglez vos choses entre vous et que vous ayez de l'amour l'un envers l'autre. Et si vous n'êtes pas persuadé, lisez le discours de Jésus dans Matthieu 5, versets 24 et 25, je crois qu'il dit, « Si tu viens devant l'autel avec ton offrande et que là tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Laisse là ton offrande, offre-la pas, et va te réconcilier avec ton frère, et après reviens offrir ton offrande et ça va aller. » Vous voyez, c'est exactement la même vérité. C'est ce que ça implique que aimer son prochain, c'est plus que tous les holocaustes. Même si on fait tout ce qui doit être fait pour démontrer une vie chrétienne normale, aller dans l'assemblée, participer aux activités, témoigner, ainsi de suite, si on n'aime pas notre prochain, et surtout si on n'aime pas nos frères et sœurs, et qu'il y a des choses pas réglées dans notre cœur, et qu'il y a de l'amertume, nous sommes en train de passer à côté de l'importance de ce second volet du plus grand commandement, qui est le même que d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée. Il n'y a rien et aucun commandement plus grand que ça. Alors, nous arrivons avec le cœur. Que signifie le verbe « aimer » ici, dans ce passage? Le verbe « aimer » est exactement le même pour Dieu et pour le prochain. C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est le verbe grec « agapao » qui est utilisé. Ce verbe a souvent été défini par certains prédicateurs ou commentateurs comme étant « l'amour de Dieu ». Et en plus, on nous dit, non seulement « agapao », c'est l'amour de Dieu, mais on le met en contraste avec « philéo » en disant « philéo », c'est l'amour des hommes ou c'est l'amour d'affection, c'est un amour d'un degré plus bas. Ça, j'ai entendu ça des centaines de fois, et j'exagère même pas. Mais quand on fait une étude sérieuse de ces deux verbes-là, dans le Nouveau Testament, on se rend compte que cette affirmation n'est pas juste. Laissez-moi vous présenter quelques conclusions, après on va aller dans le sens du verbe « agapao ». Agapao n'est pas seulement l'amour de Dieu. Oui, Dieu aime agapao, il n'y a aucun doute, mais ce n'est pas exclusif. Agapao est aussi l'amour que Jésus a commandé à ses auditeurs lorsqu'il leur a dit dans Luc 6, 27, « Aimez vos ennemis, agapao, aimez comme ça ». Donc, Jésus recommande cet amour agapao à ses disciples. Là, je fais juste vous mentionner des versets où agapao est utilisé. Vous allez voir, c'est frappant, les vérités qu'on apprend là. Et ensuite, je vais définir clairement ce que signifie ce verbe. Deuxièmement, un soldat romain qui était un centurion de Capernaum. Ça, c'est la synagogue blanche de Capernaum, bâtie sur les fondements de la synagogue du temps du Seigneur. Elle date du 4e siècle. Et ça, c'est les restants d'une synagogue qui se trouve à En-Gedi, dans le désert de Judée. Écoutez bien ceci. Il y a un soldat romain, centurion de Capernaum, qui aimait la nation juive au point de leur bâtir une synagogue. C'est pas celle-là, mais c'est celle qui est juste en dessous. Il aimait la nation juive. C'est quoi le verbe? Agapao. C'est toujours agapao, OK? C'est juste qu'il faut... Il faut que ça nous rentre dans l'esprit. Il aimait comme ça. Un soldat romain était capable d'aimer les Juifs, agapao. Extraordinaire, ça. Est-ce que c'est l'amour exclusif de Dieu, agapao? Non, 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 non. Troisièmement, les hommes en général, lors de la première venue du Seigneur Jésus dans le monde, en tant que lumière, ils ont rejeté la lumière parce qu'ils ont, selon la Darby, aimé mieux les ténèbres à la lumière. C'est quoi le verbe « aimer mieux »? Agapao. Agapao. Ils ont aimé les ténèbres. Agapao. Agapesen. Exactement. Les hommes ont aimé mieux les ténèbres à la lumière. Et c'est agapao qui est là. Les hommes méchants, pécheurs, qui préfèrent la nuit au jour, ils aiment agapao, les ténèbres. Agapao, c'est pas vrai que c'est l'amour exclusif de Dieu. Les hommes aiment comme ça. Et Darby a traduit « aime mieux », mais ça dit juste « aimer » dans le grec. Et second a traduit par « préférer ». Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est impressionnant. Les hommes sont capables d'aimer Agapao. Quatrième exemple, les chefs juifs ont aimé Agapao, la gloire des hommes, plutôt que la gloire de Dieu. Jean 12, verset 43. Les chefs juifs ont aimé Agapao, la gloire des hommes. Cinquièmement, dans Luc 11, verset 43, les pharisiens aimaient Agapao, les meilleures places. Celle-là. Où est-ce que c'est écrit neuf? Est-ce que vous voyez? Ça, c'est écrit « Seat of Honor », le siège d'honneur. Donc, dans les synagogues, ça, c'est un bel exemple qu'on a, c'est une synagogue du 2e siècle qui nous montre qu'il y avait un siège placé. Ici, c'était l'autel qui était là. Derrière, là-bas, c'était la Torah qui était placée dans une espèce de placard. Et ça, c'était un siège particulier. C'est ce à quoi Jésus fait référence lorsqu'il parle des premiers sièges ou les premières places dans les synagogues. C'en est une, ça. Et c'est ce qu'ils aimaient, Agapao. Les pharisiens religieux, hypocrites, qui aimaient la gloire, ils aimaient, Agapao, les premières places dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Agapao, toujours. Dans Jean 3, verset 35, le Père aime le Fils, Agapao. Et là, on arrive avec un problème. Ça, c'est dans Jean 3, 35. Dans Jean 5, verset 20, le Père aime le Fils. La même phrase, mais cette fois, philéo. Wow! Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment le Père peut aimer le Fils agapao et le Père peut aimer le Fils philéo? Il ne faut pas bâtir une théologie de « c'était l'amour inconditionnel agapao, c'était l'amour affectif avec philéo ». Ce n'est pas tout à fait le sens des termes. Ça, c'est certaines personnes qui disent ça, mais je pense qu'ils ne sont pas justes dans le fait qu'ils disent ça. Dans l'Évangile de Jean, il utilise le verbe agapao et philéo comme deux synonymes. Jean utilise ces deux verbes-là comme deux synonymes. Il ne veut pas dire que parfois Dieu aime d'un certain degré et parfois Dieu aime d'un autre degré. Et si on tient la logique des commentateurs qui disent que agapao, c'est l'amour de Dieu suprême et philéo, c'est l'amour des hommes affectifs, ça voudrait dire que dans certains passages, le Père aime vraiment le Fils, mais dans d'autres, il l'aime juste de façon affective. Et ça, c'est ridicule comme idée. Le point est qu'une étude sérieuse des mots agapao et philéo dans l'Évangile de Jean confirme que Jean utilise ces mots-là de façon interchangeable. Non pas seulement Jean, mais Matthieu. Parce que Matthieu aussi, lorsqu'il parle de ces pharisiens qui aimaient les premières places, lui, il utilise philéo. C'est le même texte, le même passage parallèle, mais il utilise philéo. Il y a 4 fois la phrase dans l'Évangile selon Jean, le disciple que Jésus aimait. Parfois, c'est agapao, parfois, c'est philéo. Est-ce qu'il y a une différence? Le contexte permet de dire non. C'est simplement que pour Jean, c'était des synonymes de façon littéraire, dans sa rédaction. Ça fait des années qu'on nous dit que agapao et philéo ont toujours une différence. Non, pas dans l'Évangile de Jean. C'est interchangeable, c'est tout. Il fait un peu comme nous, on fait parfois quand on s'exprime ou quand on écrit, on essaie de ne pas toujours utiliser les mêmes mots. On utilise des synonymes. Et Jean, c'est ce qu'il a fait, c'est son style littéraire dans l'Écriture. Alors, nous avons parfois le Père aime le Fils, à philéo agapao, le disciple que Jésus aimait, philéo agapao. Et au sujet de l'entrevue de Pierre avec Jésus dans Jean 21, vous avez certainement entendu parler de ça, versets 15 à 17, où il est question du verbe agapao et philéo, où Jésus dit à Pierre, 3 fois m'aimes-tu? Avec agapao les 2 premières fois, et Pierre répond toujours philéo, philéo. Et la 3e fois, Jésus utilise philéo, et Pierre répond avec philéo. Est-ce qu'il y a une différence entre les termes? Et là, les commentateurs, ils explosent en explications à ne plus finir. Mais leurs explications sont incohérentes en tenant compte du fait que dans l'Évangile de Jean, les 2 termes sont interchangeables. D'ailleurs, qu'est-ce qui a attristé Pierre? Est-ce que c'est parce que Jésus a changé de verbe? Est-ce que c'est parce que Jésus a utilisé philéo après avoir utilisé 2 fois agapao? Est-ce que c'est ce que le texte dit? Pas du tout. Le texte dit que Pierre a été attristé de ce que Jésus lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Donc, le point, c'est que Pierre a été attristé de se faire poser la même question trois fois. Pas que Jésus changeait de mot, que Pierre se faisait poser la même question trois fois. Ça a dû le blesser et parce que ça a dû lui rappeler qu'il avait renié trois fois le Seigneur. Et le Seigneur met à l'épreuve son amour pour lui. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Oui, oui, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Oui, oui, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Oui, je t'aime. Voilà ce qui est important de réaliser sur la différence entre agapao et philéo. Maintenant, le contexte doit décider du sens de ce mot-là, agapao. On va se concentrer là-dessus. Chaque fois que nous avons la phrase « tu aimeras ton prochain comme toi-même » dans le Nouveau Testament grec et même dans la Septante, l'Ancien Testament grec dans Lévitique 19-18, c'est le verbe agapao qui est utilisé. Et ce verbe-là comporte trois significations particulières, le verbe agapao. Premièrement, là, ce que je vous donne là, c'est ce que en grec, dans le Nouveau Testament à l'époque, dans la langue originale, le mot agapao, le verbe agapao signifiait. Il comportait trois aspects particuliers. Premièrement, démontrer de l'affection et aussi de l'intérêt pour les autres. Et ça se voit à travers les œuvres. Pensez à ce fameux centurion romain. Il y avait de l'affection, de l'intérêt pour la nation juive. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il leur bâtit une synagogue. Agapao, c'est pas juste un amour inconditionnel qui fait rien. Agapao, c'est un amour qui aime et qui aime et a tellement d'affection qu'il le démontre par les œuvres. Il leur bâtit une synagogue. Dans Jean 14, verset 15, le chrétien aime le Seigneur, agapao, alors s'il aime le Seigneur, il garde ses commandements. C'est un verbe qui comporte toujours cet aspect-là de démontrer de l'affection et de l'intérêt et qui se concrétise dans les œuvres. Deuxième signification de agapao. Il signifie prendre plaisir dans quelque chose et ça se voit particulièrement dans le comportement des hommes. Donc, premièrement, affection et intérêt, ça se voit dans les œuvres. Deuxièmement, prendre plaisir, ça se voit dans le comportement. Et vous voyez les hommes, quand ils ont aimé les ténèbres, ça se voyait dans leur comportement, ils rejetaient la lumière. Ils rejetaient Jésus, ça se voyait dans leur attitude et leur comportement. Ils aimaient les ténèbres, ils prenaient plaisir dans les ténèbres. C'est épouvantable, mais c'est ce qu'ils faisaient. Avec cet amour-là, agapao, et ça se voyait dans leur comportement. Paul, dans 2 Timothée 4:8, il dit que les chrétiens qui aiment l'avènement du Seigneur vivent selon la justice. Les chrétiens qui aiment agapao, qu'ils prennent plaisir dans le retour de Jésus-Christ, ça se voit dans la justice, dans leur comportement juste. Le résultat, il est immédiat. Et la troisième signification du verbe agapao dans le Nouveau Testament grec, c'est donner des preuves à travers l'engagement et la volonté. Là, on s'approche de l'amour qu'on a souvent défini comme étant l'amour de Dieu. Mais c'est vrai aussi pour les autres. Et c'est vrai pour les hommes également. N'oubliez pas qu'aimer son prochain, c'est agapao. Cet amour qu'on a souvent dit étant l'amour de Dieu. Alors, c'est donner des preuves à travers l'engagement et la volonté. Jésus met le comble à son amour pour ses disciples. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des preuves de cet amour-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il lave les pieds des disciples. Il le prouve. Il le démontre. Les croyants aiment, mais ils doivent le démontrer en action et en vérité. 1 Jean 3, verset 18. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? La parole de Dieu, elle met autant d'importance sur le fait d'aimer Dieu que celui d'aimer son prochain. Et ça c'est quelque chose que j'avais jamais pris conscience avant les derniers mois de préparer cette étude-là. Je pense que j'aurais dit, si n'importe qui m'avait posé la question, qu'est-ce qui est le plus important, j'aurais dit, aimer Dieu, c'est évident. Et l'enseignement biblique nous dit, c'est pas tout à fait ça. C'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et l'un démontre l'autre. Et si l'un est absent, l'autre aussi est absent. Ça, c'est ce que Jean enseigne clairement dans sa première épître, c'est incontestable. Ça m'a frappé, ça. Comme le dit la Bible Darby, ces deux commandements sont semblables. Deux commandements qui tirent leur origine de la loi mosaïque, c'est évident. mais qui sont sans cesse réitérés dans les Épîtres, donc ils s'appliquent à nous dans l'Église. Même si c'était dans la loi mosaïque, ça s'applique à nous dans l'Église. Nous sommes appelés à prendre au sérieux, vraiment au sérieux, ce commandement d'aimer Dieu et d'aimer son prochain parce que c'est semblable, pour ne pas dire pareil, identique. Deuxième point, aimer son prochain, c'est n'importe qui, mais surtout les croyants. Toute personne qui croise notre chemin peut être notre prochain, mais surtout les chrétiens. Et faites la recherche pour voir à quel point le Nouveau Testament met l'accent sur l'importance de prendre soin les uns des autres. Et je vous rappelle que, dans ma compréhension, c'est important parce que c'est le témoignage qui va confirmer que nous sommes vraiment des disciples du Seigneur si nous nous aimons les uns les autres. Le contraire a démontré que c'est vraiment nuisible. Ça ruine le témoignage lorsqu'il n'y a pas d'amour entre les croyants. Et la troisième conclusion de tout ça, notre amour envers le prochain devrait être manifesté par de l'affection, de l'intérêt, de l'engagement avec justice, de la bonté, de l'humilité et aussi de la miséricorde. Le docteur de la loi, il savait ces choses-là. Il n'était même pas sauvé. Il savait ces choses-là. Puis le Seigneur, vous vous rappelez ce qu'il a dit à la fin, à la toute fin de l'entretien? Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Imaginez, si lui savait tout ça et il n'était pas loin du royaume de Dieu, nous qui sommes membres de l'Église de Christ, qui faisons part de l'aspect mystérieux du royaume, qui ayons une espérance vivante dans le royaume de Dieu à venir, nous sommes dedans, nous. On n'est pas prêts, on est dedans. Imaginez combien plus on doit porter attention à ça. Lui, il était proche, puis imagine, c'est quelque chose que le Seigneur lui dise, « T'es vraiment pas loin », parce qu'il savait ces choses-là. Alors, nous qui sommes dedans, à bien plus forte raison, on ne devrait pas savoir et mettre en pratique ces choses-là. Et c'est ma prière, que le Seigneur nous aide à l'aimer vraiment et à aimer notre prochain comme soi-même et l'aimer avec toutes ces belles caractéristiques que nous avons vues. Prions ensemble. Ah Seigneur, merci pour ta parole, elle nous dirige, elle nous instruit, elle nous enseigne, elle nous corrige aux besoins. Merci Seigneur pour ta saine parole et nous voulons Seigneur te supplier, de te demander Seigneur de tout cœur que tu puisses intervenir dans nos cœurs, nos pensées, dans nos raisonnements pour nous transformer, pour que nous ayons une attitude différente les uns envers les autres et envers notre prochain, que nous puissions refléter réellement, Seigneur, même dans nos cœurs, cet amour envers le prochain. Parce que tu sais, Seigneur, que bien souvent, on agit de façon apparemment correcte, mais nos cœurs sont remplis de méchanceté, remplis d'amertume, remplis de jalousie, remplis de querelle. Débarrasse-nous, Seigneur, de ces obstacles à ce plus grand commandement. Travaille nos cœurs, travaille nos pensées et nos vies pour que nous puissions refléter vraiment un amour qui soit le reflet de cette compréhension que nous avons vue ce soir, un amour qui se donne, qui se manifeste par des preuves, un amour qui considère les autres, les intérêts, qui montre l'affection et ainsi de suite. Merci Seigneur parce que tu as donné l'exemple suprême de cet amour qui doit nous caractériser. Et nous te remercions et te prions dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci beaucoup.